On peut pas juste dire il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, mais que pour pouvoir être élu et vivre correctement, il faille être soit retraité, soit avoir déjà un petit pécule de base qui soit assez important.
Mon cher Hugo, tu es le plus jeune maire de France. Tu as été élu à 18 ans en 2020 à Vinzieux, petite commune de 500 habitants du nord de l'Ardèche. Tu fais partie depuis mars dernier du Printemps des maires, un collectif d'élus locaux destiné à favoriser l'engagement politique aux élections municipales. Tu nous en parleras et tu sièges également au conseil d'administration d'INSIT qu'on a reçu dans la première partie de l'émission. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Hugo. Comment tu es devenu maire à l'âge seulement de 18 ans ?
Alors mon parcours il est en fait il est un peu atypique parce que il part de celui d'un gamin qui est très très timide, vraiment très 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 timide quand je suis au collège, que j'arrive aux années lycée, etc. Et puis qui se dit qu'il a envie de changer, puis qui arrive petit à petit à s'ouvrir aux autres et au monde. Et puis quand j'arrive aux alentours de mes 18 ans, il se trouve que j'habite toujours dans un village qui est le village dans lequel je suis né quasiment, qui s'appelle Vinzieux. Moi, quand je me balade dans ce village, j'aime bien dire, je l'ai vu grandir en même temps que moi. Et j'y vois plein de choses. Je me dis, on pourrait faire plein de projets. Il manque de la vie, j'ai envie d'y faire revenir de la vie, etc. Et puis, il y a quelqu'un, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu mets la responsabilité de ça aux autres? Et pourquoi tu le ferais pas toi? Et pourquoi tu t'engagerais pas? Il y a une personne qui m'a dit ça, j'y réfléchis.
Mais attends, tu connaissais déjà l'action municipale, le conseil municipal et tout, ça te parlait ? Tu y étais déjà allé ou...
Alors, oui et non.
Ok.
Oui, parce que, j'avais eu l'occasion de regarder comment ça marchait dans les communes autour et ça m'intéressait. Moi, je me suis toujours intéressé à la politique depuis gamin, mais d'accord. Je me suis jamais dit que c'était pour moi.
Ouais, ok.
Tu n'as jamais été élu délégué, pardon ?
J'ai jamais été élu délégué, effectivement.
Okay. C'est une info. Parce
que mais ça t'intéressait à la politique ? Tu es à la télé, etc. Tu voyais passer les trucs, non ?
Ouais, je voyais passer les trucs à la télé. Ouais, je me rappelle les présidentielles, etc. On regardait les grands trucs à la télé. Mais en fait, il y avait la politique à la télé et puis ma vie. Ouais, et puis il n'y avait rien entre les deux. Ouais, ouais. Et puis un jour, j'ai fait un stage dans une mairie et je me suis retrouvé auprès d'un directeur de cabinet. Et là, j'étais encore très, très, très timide à l'époque. Et je me suis retrouvé pendant 2 semaines à aller sur le terrain, à aller voir le problème du bas de l'immeuble avec un échafaudage qui est mal placé et comment est-ce qu'on va le régler, etc. Et cette même personne, un jour, il a fallu régler un problème, je crois que c'était avec un cirque qui venait s'implanter dans la ville. Et il y avait un petit problème à gérer et il me donne le téléphone, il me dit « Tiens, tu me dis que t'es le collaborateur de cabinet parce que stagiaire, ça marche pas. » Il me donne il fait le numéro, il décroche le téléphone, il sort de la pièce et démerde-toi, quoi. Et là, je me suis dit, finalement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça m'a donné une confiance. Et on fait quand même. Et finalement, on se débrouille et on y arrive. Et ça m'a donné soif d'apprendre, en fait, et de faire des nouvelles choses.
Ok. T'es un vrai ovni parmi les maires de France. Il n'y en a que 4% d'entre eux qui ont moins de 40 ans. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette difficulté qu'ont les jeunes à s'engager politiquement au niveau local ?
Il y en a tout plein des difficultés. Et en fait, je ne sais pas par quel biais on prend le truc, mais il y a un premier biais de difficulté qui est celui de donner envie. Et c'est peut-être le plus important et le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de crise de confiance où moi j'entends plein de gens qui me disent les jeunes ne s'engagent plus, ils n'en veulent plus, etc. Et je pense que c'est faux parce que je croise plein de jeunes qui s'engagent, on est de la génération climat qui sort dans les rues, on n'a jamais été aussi connecté aux problèmes de la France et du monde à travers plein de biais. Mais par contre, les gens veulent plus s'engager démocratiquement parce qu'ils y voient pas comme un espace de solution et au contraire, moi, je pense que c'est à nous de construire ces espaces-là de solutions et d'y aller. Et je sais pas pourquoi je suis allé là-dedans, mais je suis parti des quelques-uns qui ont envie de redorer un petit peu l'image et de dire que la politique, c'est important et qu'on a besoin de gens dans les associations et qu'on a aussi besoin de gens dans les mairies ou dans les institutions.
Alors, il y a certainement le complexe d'illégitimité, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi que les jeunes peuvent percevoir ça comme un lieu d'emmerde. En 2020, environ 500 maires démissionnent chaque année. 44% des maires déclarent avoir déjà pensé à démissionner. Et toi, c'est le cas ou pas ?
Alors, c'est pas le cas. Alors, les emmerdes, on en a des emmerdes. Et on a notre lot, on entend toutes les trucs, on est à portée de baffe, etc. Mais par contre, il y a tellement de trucs passionnants. Moi, depuis depuis 2020, mais le nombre de personnes que j'ai rencontrées, c'est impressionnant. Et puis en fait, je me retrouve dans la même journée à faire de l'urbanisme, à faire à traiter sur l'avenir du village, sur la question de la gestion des bâtiments publics, de l'électricité, etc. Et en même temps, à régler aussi la problématique d'un habitant qui vient, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un pour garder ses enfants le lendemain, etc. Et puis du coup, on essaie de trouver des solutions ensemble. C'est hyper concret en fait dans une mairie.
Latifa.
Non, juste comment la campagne que t'as menée, comment t'as convaincu les gens de voter pour toi ? Et après, quelle est la moyenne d'âge un peu dans ton dans ton village en fait ?
Alors, la campagne, en fait, je l'ai faite de manière relativement longue parce que je savais que déjà rien qu'avec ma tête et mon âge, je partais avec un petit handicap entre guillemets. En tout cas, j'avais besoin de montrer que j'étais légitime à y aller. Et donc en fait, on est parti en équipe parce que je veux dire et redire que en fait, moi on me voit même beaucoup plus que les autres maires en fait. Mais en fait, la commune, si on n'est pas nous 11 en l'occurrence, elle fonctionne pas. Et moi, je fais pas les trucs tout seul. Donc on est parti en équipe, on s'est présenté. Et puis moi, simplement, on a bossé. Et puis j'ai montré pendant plusieurs mois que j'étais légitime. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai fait 2 réunions publiques pendant ma campagne. Une première au mois de novembre. Et là, je parle, mon objectif c'était de montrer que j'étais légitime. Donc je fais 45 minutes sans notes pour présenter le programme qu'on a construit ensemble avec toute l'équipe. Et puis à la fin, je me retrouve avec que des questions sur mon âge. Mais comment tu vas faire avec ton âge, avec tes études, etc. etc. Des trucs qui viennent re-questionner la légitimité d'un jeune à se présenter, à avoir des idées et à bosser. Et on a travaillé ça, et trois mois plus tard, on a refait une deuxième réunion publique. Même chose, et là plus aucune question sur mon âge. C'est-à-dire que le temps a permis aussi de faire imprimer le fait qu'on avait bossé, qu'on avait envie d'y aller, qu'on était une équipe et que ça peut fonctionner.
Namo ?
Justement, il y a des sondages qui montrent que les jeunes ne sont pas si désintéressés que ça par la politique, mais c'est juste qu'il y a plus de défiance vis-à-vis des élus, de leurs représentants politiques. Déjà, est-ce que tu penses que justement la figure du maire, qui est une figure de proximité, est déjà une figure qui peut permettre de réconcilier ce problème-là ? Et à ton avis, on peut redonner cette envie aux jeunes de s'impliquer dans la politique à l'échelle locale?
Pourquoi on s'implique? Parce qu'on veut que ça change. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on a plein de capteurs aujourd'hui à l'échelle nationale qui montrent que, en fait, il se passe plein de trucs. Il y a des élections. Et puis, il y a des mots, vous en avez déjà d'ailleurs très bien parlé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi peu de réaction là sur les derniers mouvements ministériels? C'est parce que en gros il y a une sorte de lassitude, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver, mais où est-ce qu'on en est, etc. Et ça c'est extrêmement mauvais pour notre démocratie, parce que aujourd'hui on est dans un moment du monde, et je pourrais développer, où on a besoin d'un changement assez brutal. Et là-dessus, j'ai l'impression que dans les communes, on arrive encore à faire différemment et qu'on devrait s'inspirer de ce qui se passe à un échelon local. Moi, dans mon conseil municipal, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le village. Il y a des gens de tous les âges. Il y a des gens de plein de métiers et professions différentes. Et puis, il y a des gens qui pensent différemment politiquement. Mais ça n'a jamais été un sujet. Je leur ai jamais posé la question. Et on arrive quand même à faire vivre de la commune. Et ça, c'est du consensus. Et pour répondre à la deuxième partie de la question... Sur la question... Putain, merde, je l'ai oublié.
C'était quoi la deuxième partie de ta question?
C'était redonner justement envie aux jeunes de s'investir localement, en fait, dans la politique locale.
Oui, pour redonner envie de s'investir localement, le maire et la figure du maire restent encore une figure, je crois, mais il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas juste dire que c'est un totem, qu'on est apprécié, que c'est une figure. Et il faut se donner les raisons du pourquoi. J'en ai donné une sur le fait qu'on arrive à faire avancer les choses. Il y en a une autre, c'est qu'on est encore un endroit où on prend des responsabilités. Parce que, en fait, quand il y a des problèmes, on vient nous donner la responsabilité de le régler, ce problème. C'est-à-dire que moi, demain, on vient prendre une mesure à l'échelon national. Et ben moi, je vais être à la fois en charge... potentiellement de l'appliquer, mais je vais aussi être en charge d'aller voir la famille qui pourra plus avoir accès à telle aide et qui va se retrouver dans la rue. Et en fait, on va croiser les deux et on se retrouve au milieu et on essaye de trouver des solutions qui vont convenir un petit peu à tout le monde. Et cette question de responsabilité, elle est hyper importante, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les maires ont encore une cote de popularité qui est supérieure aux autres.
C'est quoi le printemps des maires, du coup? Vous allez faire quoi?
Le printemps des maires, En gros, l'idée, c'est de dire, on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les maires qui nous disent que c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes, il y en a plein qui démissionnent, etc. Et qui est finalement un discours qui est un peu déprimant. Et nous, on vient de dire, certes, c'est difficile, mais en fait, c'est un espace d'expérimentation incroyable. Et dans cette difficulté, on arrive encore à faire bouger la France et on a besoin de trouver des gens qui ont envie de le faire et que c'est un bon endroit pour le faire. Et donc, assez modestement, avec quelques autres collègues maires, on s'est dit, on va essayer de redorer un petit peu le blason de cette image des maires. Et puis, c'est une série de webinaires, c'est du mentorat, on vient travailler un petit peu sur des idées. Mais l'objectif derrière, c'est de se dire qu'il y a encore un espoir et que le futur s'écrit au village ou à l'échelle de la ville. Et que si on veut que cette phrase elle devienne réalité, ben c'est à nous de nous bouger un petit peu.
Tu as été élu maire de Vinzieux, maire sans étiquette. Je voulais te demander, est-ce que dans une commune comme Vinzieux, il y a des politiques de droite et des politiques de gauche ? Une action municipale, elle peut avoir une couleur politique dans une petite ville ?
Pas vraiment. Pas vraiment. On peut dire qu'on a une politique en faveur de la culture, on peut dire qu'on a une politique environnementale, on peut dire qu'on a une politique qui essaie de faire en sorte à ce que Vinzieux, là, par exemple, le 17 octobre, on a eu des pluies monstres, on a eu des inondations dans
septembre.
Le coin. 17 octobre dernier.
Ah, et dernier, l'année dernière, pardon.
De l'année dernière, on a eu des pluies qui étaient gigantesques. Il y a des communes à côté de chez moi qui ont subi des dégâts énormes. Nous, on en a subi quelques-uns. Nous, on a lancé une politique pour... c'est très modeste, hein, mais on est allé voir les habitants qui étaient les plus concernés et on a essayé de trouver des solutions ensemble. Ça, c'est pas de gauche, c'est de droite. C'est pas de gauche, c'est pas de droite.
Là, en l'occurrence, non, parce que tu parles d'une intempérie, des conséquences d'une intempérie. On se doute que c'est pas suffisamment droite et de gauche. Mais non, mais ok.
En fait, ce que je veux dire, c'est que même quand on vient mener une politique un peu plus culturelle, parce qu'on a envie de faire ramener des concerts, des spectacles dans le village, ou quand on a envie de traiter la question de l'environnement sur un sujet ou un autre. Moi, je me la pose jamais comme un sujet de gauche ou de droite à Vinzieux. Et je pense que c'est même comme ça qu'on devrait réfléchir à une échelle plus globale, plutôt que de se demander à qui est-ce que ça va plaire dans les partis politiques. C'est juste de se demander, mais qu'est-ce qui est bien pour le village ? Et nous, on a identifié quelque chose à Vinzieux et on y reste. On se dit, Vinzieux, c'est un village qui a tout sur le papier pour devenir un village dortoir. Et nous, on veut se battre pour que ça ne le soit pas. Et en fait, on suit cette petite ligne tout au long des différentes actions qu'on mène. Et en fait, c'est ça notre boussole.
Lomir.
Et ça, je comprends bien au niveau de l'action municipale, de l'action sur la commune, mais au-delà de l'action, il y a ton discours et ton destin peut-être national, ce que je comprends que c'était plutôt situé à gauche. Est-ce que les gens le savent ? Est-ce que c'est des conversations que vous avez ? Je pose la question parce que on est à quelques mois des municipales, avec une tendance qui est quand même qu'il y a beaucoup de maires sans étiquette ou modérés ou en tout cas pas d'extrême droite qui constatent une montée de l'extrême droite aux élections nationales chez leurs administrés et qui se posent vraiment la question de leur rôle là-dedans. Est-ce qu'ils devraient ouvrir des conversations sur les raisons de ce vote ? Est-ce que quelle est leur responsabilité là-dedans ? Parce que moi, ce que je vois en tout cas, c'est que chez beaucoup, ça crée beaucoup de souffrance qui vient à l'incompréhension totale de comment vous pouvez voter pour eux et voter pour moi, alors que est-ce que vous ne savez pas qu'on a les mêmes valeurs ? Toi, comment tu vois ton rôle là-dedans ? Est-ce que tu en vois un ? Et comment tu le gères ? Parce que ça doit vraiment pas être évident.
C'est sûr qu'on se pose toujours beaucoup de questions quand on voit des résultats d'élections. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi, je me rappelle avoir eu cette image sur un 49-3 il n'y a pas si longtemps. Ça faisait 6 mois qu'on avait bossé justement avec INSEET, avec des jeunes en service civique pour créer du lien dans le village, pour les questionner sur ce qu'ils avaient envie. Et en fait, derrière, pour leur dire, bah, vous voyez, la politique, ça peut faire changer les choses. Et puis, on vient discuter ensemble et on discute sur les gros projets d'aménagement de centre-bourg qu'on est en train de terminer en ce moment dans le village. Et puis là, on arrive au bout de 5 mois de mission de service civique avec ces jeunes qui se sont investis dans le village. Et là, bam, 49-3, tout le monde dans la rue, etc. Et là, je me dis... Là, moi, dans ma mairie, je suis dans un petit bateau en train de nager à contre-courant pour essayer de faire passer un certain nombre d'idées. Et en fait, clairement, on est dans ce petit bateau. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important et que je vous remercie de m'inviter là. C'est qu'il y a les actions concrètes qu'on est en capacité de faire, mais après, il faut aussi faire passer des messages. Mais c'est deux choses qui sont en fait un petit peu très liées, mais aussi très différentes. Les messages qu'on peut porter pour avoir des vrais changements à une échelle globale, à une échelle systémique, à une échelle nationale, et c'est des mots qui sont importants, qui sont lourds et bien portés, mais aussi des trucs très concrets et relier les deux, parce qu'aujourd'hui, on a une fracture entre les deux, en fait.
Latifa ?
On l'a dit hein, plusieurs fois, l'année prochaine, c'est une année donc, d'élections municipales. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui se lance à la conquête d'une mairie, à Louis Sarkozy, par exemple ? Il dirait quoi ?
Est-ce que je peux compléter ?
Vas-y, complète la question, Loumire.
Parce que, comme on se connaît un peu, je sais que tu as mené de fond des études supérieures et le fait d'avoir été élu. Est-ce que il n'y a pas besoin de choisir, finalement, entre les deux ? Toi, tu as réussi à faire les deux, et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ne veut pas choisir entre ces deux trucs, par exemple ?
Ok, alors, déjà, je ne suis pas sûr d'avoir des conseils à donner à Louis Sarkozy. Mais par
comme
contre,
c'est
à
un
tous
jeune
les
candidat qui se lance, ouais. Ne le fais pas.
Toi, t'es maire depuis 5 ans.
mais par contre, à tous les jeunes qui ont, c'est là où il y a une petite différence, des soucis de légitimité et en fait qui se la posent comme ça. Mais la première chose à faire, c'est d'y aller et de ne pas écouter tous ceux qui disent qu'on est trop jeune pour être légitime. Parce que en fait, la question, c'est le boulot, c'est de dire, il faut. Oui, c'est dur. Oui, il y a du boulot. Oui, il faut apprendre plein de trucs. Mais c'est passionnant, et t'as ta place, parce que c'est les maires qui vont construire nos territoires de demain. Et il y en a tout plein. Et si c'est pas être maire, ce sera être adjoint. Et si c'est pas être adjoint, ce sera être élu, en fonction de l'ambition qu'on a envie de se donner. Mais il faut rentrer là-dedans, parce que c'est vraiment notre quotidien, et ce sera notre quotidien demain, ça, quoi. Et après, il y a plein d'autres problèmes. Moi, j'ai fait mes études à côté. Et on parlait de ce qui pouvait empêcher les gens d'être élus. Mais aujourd'hui, c'est le problème de la valorisation. Comment est-ce qu'on est capable d'être maire, d'être étudiant et de gagner sa vie ? Moi, je sais pas. Il y a des moments où c'est très difficile et où il faut réussir à boucler le bois. Et là, il y a un petit sujet à avoir, qui est le sujet sur le statut de l'élu, qui traîne et qui traîne depuis super longtemps, et qui peut aussi permettre la diversité et le renouvellement. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. C'est pas moi qui ai les manettes pour faire ce genre de truc. Mais par contre, on a besoin de créer des cadres, parce que sinon, on peut pas juste dire il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, mais que pour pouvoir être élu et vivre correctement, il faille être soit retraité, soit avoir déjà un petit pécule de base qui soit assez important.
Surtout dans un contexte où déjà on lutte pour convaincre les jeunes juste d'aller voter à toutes les élections, quoi, et que c'est la catégorie de population qui vote le moins, hein, je crois, la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est, enfin, là, ça demanderait des moyens là en termes de communication et tout sur l'engagement, ou peut-être, enfin, juste des petites étapes. Quand on peut voir que, par exemple, l'enseignement, enfin, l'éducation civique, elle est très peu présente, et c'est toujours un enseignement qui saute au collège, au lycée, etc. Et c'est peut-être aussi une porte d'entrée par là, quoi.
On pourrait en parler, de l'éducation civique. Moi, en éducation civique, j'ai appris qu'il existait une commune, j'ai appris qu'il existait une région, j'ai appris qu'il existait un département, etc., etc. Mais j'ai jamais appris ce qu'on faisait à l'intérieur. Et il a fallu que je me retrouve à un moment donné dans la boîte, dans la boutique, avec les mains dans le cambouis, pour me dire « Ah mais c'est intéressant et ça a un impact sur ma vie ». Et ça, il faut qu'on réussisse à le transmettre. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura envie de s'engager, et parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, et on a besoin de gens qui sont passionnés partout et pour tout. Mais ça veut dire que, au moins, on est alerte sur le fait que, ben oui, à un moment donné, quand on a, je peux parler des départementales, parce que j'avais fait une campagne de départementales, un département à gauche et un département à droite ne produit pas les mêmes politiques sociales. Nos anciens, ils ne sont pas traités pareil dans les EHPAD, parce que c'est eux qui. Et ça, ce discours-là, quand on nous dit la droite et la gauche n'existent plus, derrière, c'est le discours de la politique ne changera rien, alors qu'il y a vraiment des axes de futur qui se dessinent.
On parle beaucoup du phénomène de désertification des communes rurales. Est-ce que ça existe à Vincieux ? Comment ça se manifeste ?
Alors, on a eu un chiffre tout à l'heure qui est tombé. Les communes rurales, en réalité, elles progressent en termes de population. Elles sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on pense.
C'est lié au Covid ? C'est lié à ce phénomène des urbains qui viennent s'installer à la campagne ?
Je pense que c'est lié à un discours global médiatique qui a tendance à nous dire « Nos communes, elles sont vieillissantes, elles se vident, elles se referment sur elles-mêmes, etc. » Enfin, un discours qui se recentre. Alors qu'en réalité, moi, quand je vais dans plein de communes, et là, j'ai encore eu plein d'exemples, de maires qui nous expliquent comment est-ce qu'ils retravaillent le cycle de l'eau, de maires qui nous expliquent comment est-ce qu'on remonte un EHPAD dans sa commune et qu'on va se battre pour qu'il arrive, d'autres qui nous expliquent comment est-ce qu'ils travaillent sur l'agriculture en bossant sur des fermes communales, etc., etc. Et en fait, ça se fait avec des gens qui sont engagés dans des territoires, qui impliquent plein de citoyens. Et ça, c'est un poumon de la vie de la France. C'est quand même 32, 33 000 communes dans lesquelles il y en a plein où il se passe tout ça. Et on n'en parle jamais. Et moi, dans mon département, j'en ai plein des exemples. Des gens qui bossent sur la forêt, des gens qui bossent de manière un peu innovante sur la voirie, des gens qui bossent sur le lien social. On a beaucoup parlé quand on a commencé le printemps des maires sur la fraternité. Avec un truc sur la fraternité. Mais la fraternité des maires, c'est quoi? C'est plein de gens dans leur commune qui font discuter des gens ensemble. Et nous, à Vinzieux, on a organisé des repas pour que les gens se rencontrent. Et d'ailleurs, le premier repas de Noël qu'on a fait avec les habitants, là, l'année dernière, on a eu cette idée-là. On s'est dit, plutôt que d'aller illuminer le village parce que ça nous coûte très très cher, on va offrir un repas aux habitants. C'était à quelques jours de la dissolution, de la censure du gouvernement, donc au mois de décembre. Et pendant toute une soirée, on a parlé du village, du fait qu'on était content de construire des trucs ensemble, et on ne s'est pas attardé sur le désespoir national qui était en train de nous prendre.
J'aurais dû passer la soirée avec vous. Loumir.
Non, je pense que c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que on a déjà abordé ce sujet de la vision très misérabiliste de la campagne. Et il faut aussi rappeler que la campagne, ça veut un peu tout et rien dire. Enfin, c'est plus de 85% du territoire, c'est 30% des Français. En fait, c'est pas la même chose de vivre dans ce qu'on appelle du rural attractif, où en effet, il y a des néo-ruraux qui vont s'installer. Je pense au Perche ou à la Drôme, par exemple, dans certains coins. C'est pas la même chose de vivre, par exemple, moi je vis dans du rural industriel qui est très attractif, mais pas forcément des néo-diplômés, mais par des classes populaires qui n'ont plus envie de vivre en ville et qui viennent s'installer. Chez nous, c'est pas la même chose de vivre dans une zone soit littorale, soit montagne, où en fait, à l'année, t'es sans, et puis en hiver ou en été, la population explose. De vivre dans la Meuse, où il y a beaucoup de ces zones-là qui, elles, se vident parce qu'il n'y a plus d'emplois, où il y a beaucoup d'endroits, notamment la Creuse, la Lozère, où là, pour le coup, c'est une population vieillissante, mais ou de vivre dans la ruralité ultramarine. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance souvent à dire ah, les ruraux, les campagnes. Et en fait, ça veut vraiment pas dire grand-chose, à part... je suis assez sûre que des enfants de cadres journalistes parisiens qui en sont allés habiter dans le Perche, ils n'ont pas la même enfance que moi j'ai eue, même si nos villages comptent le même nombre d'habitants, en fait.
Et puis, tu as raison, c'est comme quand on dit les urbains, de quel urbanisme on parle, en fait, ça veut dire quoi? Mais rien que la ville de Paris est hyper diverse, il y a plein de quartiers différents.
Oui, donc t'imagines, mais c'est les comme quand les Parisiens disent « je vais passer le week-end à la campagne ». Mais où, en fait? Parce que ça veut rien dire.
Je vais rebondir sur cette vision misérabiliste. C'est une manière de dire aux communes, bon, bah allez, on va vous aider parce que vous en avez besoin et puis vous n'y arrivez pas tout seul. Mais en fait, ce qu'on demande, nous, les communes, c'est pas ça. C'est juste de dire, stop avec l'argent de poche, donnez-nous les moyens d'avoir les moyens pour qu'on puisse mener notre ambition et puis pour que juste on puisse montrer qu'on est des territoires innovants, dynamiques, solidaires, joyeux. Et toutes ces composantes, on les a.
Namo ?
Comment est-ce que le contexte politique national impacte justement ta commune et crée peut-être une forme d'incertitude, je pense notamment justement l'absence de budget, tout ça. Quelles sont tes craintes par rapport à cette instabilité qu'on connaît en ce moment ?
Il y a un vrai paradoxe, en fait. C'est que nous, dans nos communes, en vérité, ça fonctionne et on arrive à tenir la baraque et on arrive... Enfin, je veux dire, nos budgets, ils ont toujours été à l'équilibre. On nous a fait faire 85 milliards de coupes diverses et variées depuis 15 ans et on arrive toujours à produire des budgets. On arrive toujours à faire des trucs et encore plus. Je dirais, le lien avec les habitants, je sens qu'il est là et que j'arrive à le resserrer, que ça demande de l'énergie. Mais moi, je suis super content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent à Vinzieux, qu'on arrive à partager des choses et qu'on arrive à faire des projets. Après, on a une incertitude qui plane au-dessus de nous. Et en fait, moi, je sens que l'ambiance est assez lourde et assez pesante, en fait. Et on se retrouve avec une politique communal d'un côté où on essaye de régler des problèmes, où les gens ont de l'espoir pour qu'on règle leurs problèmes, puis une politique nationale où, de toute façon, si on prend l'étude Ipsos, la très bien nommée étude sur la confiance politique qui est sortie au mois de mars, les trois mots qui ressortent en tête, c'est colère, morosité, lassitude. Tout est dit, on le ressent quand les gens ils sont venus mettre un bulletin de vote après la dissolution législative. Nous, on tient les bureaux de vote, les maires, toute la journée. Et moi, j'aime bien être là toute la journée. J'ai senti un dépit et une colère froide qu'on ressent. Et on essaye de dealer avec tout ça, mais je vous avoue que je n'ai pas encore bien compris quel était notre rôle au-delà de ça, à part de dire qu'on a besoin de plus de moyens pour faire, parce qu'on est encore un espace où ça marche.
Au moment du Covid, on avait besoin de solidarité de manière très concrète. Les maires ont été vraiment encensés par l'État, qui les aimait, qui les adorait. Et puis ensuite, il y a eu les coupes budgétaires, tu l'as dit, dans les dotations générales de fonctionnement. Comment tu l'as vécu, toi ? Est-ce que c'est de plus en plus galère de boucler les budgets ?
Alors, ça a commencé avant le Covid. Oui, c'est galère, parce qu'on a l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi ? C'est qu'on augmente les dépenses d'une part, on baisse les recettes de l'autre. À Vinzieux, on arrive encore à y arriver parce qu'on gagne en habitants. Ce qui nous permet de maintenir et d'augmenter un petit peu nos dotations et qu'on ne voit pas les dotations baisser. Mais à un moment donné, il faut être solidaire. Et il faut être solidaire aussi des communes qui sont en difficulté parce qu'elles sont en stagnation ou en perte d'habitants, parce qu'on leur rajoute d'un seul coup des dépenses nouvelles. En fait, on est assez inquiet pour l'autonomie des communes à l'avenir. Parce que plus on réduit nos dépenses et on augmente, plus on réduit nos recettes et on augmente nos dépenses, plus on se resserre sur l'essentiel et plus on va être obligé d'aller taper, d'aller choisir sur différentes politiques. Et en fait, derrière, il va falloir qu'on arrête les politiques innovantes qu'on peut faire pour essayer d'aller ouvrir un centre de soins, une maison de santé quelque part où il y en a besoin, d'essayer de créer des services de mobilité un peu plus conséquents parce que il y en a besoin. La conséquence, elle va arriver et le contre-coup, je suis pas sûr qu'il soit réellement là encore.
Est-ce que la multiplication et la complexité des échelons territoriaux, ça complique ton taf ?
Complètement.
Ouais, carrément, vas-y, raconte.
Mais parce que quand on arrive et qu'on est un jeune maire, dans le sens où c'est notre premier mandat et qu'on débarque, et qu'on se rend compte qu'il y a 14 échelons différents pour aller demander, avec un échelon administratif, un échelon politique, avec des interlocuteurs qui ne sont pas tous les mêmes et qui ont des avis différents et divergents, c'est la meilleure manière de n'arriver à rien faire. Et donc, c'est compliqué parce que ça nous bouffe du temps. Et tout le temps que j'utilise, entre guillemets, pour essayer d'aller déposer mon dossier de subvention pour faire un petit projet dans la commune ou un gros projet dans la commune, eh ben, si je vais en déposer 4 des projets et que j'y passe du coup 3, 4, 5 jours à écrire mes 4 dossiers, eh ben, à l'intérieur, il y a peut-être 3 jours sur lesquels j'aurais pu passer un petit peu de temps pour faire autre chose. Alors aujourd'hui, on le fait et on joue avec ces règles du jeu, mais il va falloir qu'on réfléchisse à réduire un petit peu le corpus législatif ou le corpus des ordonnances qu'on reçoit, parce qu'on nous donne plein de responsabilités, on reçoit des nouvelles normes qui tombent très 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 régulièrement et nos secrétaires de mairie n'arrivent plus à suivre. Nous, on a un petit peu du mal à suivre et des fois, on fait l'impasse sur des trucs parce que sinon, nos communes, on ne vit plus quoi.
Tu peux donner des exemples de dernières normes que tu as reçues, par exemple, pour qu'on comprenne ?
On a l'exemple le plus criant que j'ai pas vécu personnellement, mais qui est tellement, tellement, tellement lourd, c'était le protocole Covid pour les écoles. Le protocole Covid pour les écoles, chaque semaine, il y avait des pages qui se rajoutaient pour savoir comment est-ce qu'il fallait ouvrir ou fermer la fenêtre, les aérations, les entrées, les sorties des enfants, etc. Et aujourd'hui, après, viennent se rajouter, en fait, des choses sur l'utilisation des artifices, sur la réglementation des feux de forêt, sur enfin des protections incendies et des feux en bordure de forêt, sur lesquels on a eu récemment, j'en ai une en tête sur la rénovation thermique des différents bâtiments avec des études obligatoires qui doivent tomber. Et en fait, si on prend chacun de ces trucs individuellement, c'est pertinent. Mais nous dire il faut tout faire en même temps et on vous coupe des moyens, il y a un moment donné où ça coince. Et là où on pourrait faire avancer le schmilblick, parce que l'idée, c'est pas de taper pour taper. c'est de dire, nous, en tant que maire, on a une responsabilité, faites-nous confiance, donnez-nous les sujets, on est capable de les prendre. Lesquels sont prioritaires pour la commune, à quel moment? Et moi, réponse à Vinzieux ne sera pas la réponse de la commune à côté, Féline ou Charna ou Brossin, qui sont à côté de chez moi.
Ça va faire très question entretien d'embauche, mais tu t'imagines où dans 10 ans?
Waouh.
Non mais voilà, en gros, est-ce que tu continues sur la politique? Est-ce que tu te vois des responsabilités plus importantes et au-delà de ta ville?
Alors, il y a 10 ans, j'avais 14 ans et je me voyais pas trop là aujourd'hui.
Maire de Vinzieux.
Et donc, dans 10 ans, je me dis, mais il y a déjà tellement de choses qui ont changé qu'on verra où ça va me mener. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est que je trouve ça passionnant de faire de la politique et j'aurais envie de continuer à en faire. Mais faire de la politique, c'est pas juste être élu. Il y a plein de gens qui font de la politique au quotidien sans le savoir. Il y a des responsables associatifs. Déjà, être responsable de son club de foot ou faire du bénévolat chez soi ou aller discuter ou s'occuper de ses parents, de ses grands-parents qui en ont besoin à un moment, c'est aussi faire de la politique, c'est aussi s'intéresser là-dedans. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Moi, j'ai envie de continuer à en faire. On verra comment. Et en fait, on a besoin d'être super nombreux pour essayer de bouger les lignes, quoi, de changer les trucs. On est là, on fait plein de constats de trucs qui vont pas. Moi, tant que j'ai de l'espoir et que j'ai envie de faire un peu bouger les trucs, ben, j'y vais, quoi.
Et tu seras candidat l'année prochaine à ta propre succession?
Oh là là, c'est la question qu'on me pose.
Ouais, on est chiant, hein, désolé.
Ouais, tout le temps.
En même temps, c'est en ce moment que ça se joue. Arrête-moi si je dis une connerie, mais c'est en ce moment que les listes.
Oui, il y a plein de gens qui se lancent là. Enfin, c'est la période.
Il y a des gens dans le chat qui hésitent. Enfin voilà, c'est en ce moment, quoi.
Allez-y.
En fait, je pourrais répondre très simplement. Je pense que tout le monde, avec ce que j'ai raconté, se met ses idées. Mais je disais tout à l'heure que c'était une question d'équipe. De se présenter sur une municipale. Et donc, je me vois mal poser et répondre comme ça, alors que j'ai envie qu'on fasse ça en équipe et j'ai envie que la première fois qu'on annonce le truc, qu'on fasse ça à 15, parce qu'on sera 15, et qu'on fasse ça correctement, parce que moi, tout seul, être candidat, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on soit 15 pour y aller et pour que la commune, elle fonctionne. Et si on veut changer les choses, si on veut, de manière systémique, de manière globale, si on veut changer les choses, ben, il faut pas juste qu'on demande au maire est-ce que t'as envie de te présenter, c'est avec quelle équipe est-ce que tu vas. Et donc, on ira ça en équipe, quoi.
On verra. D'accord, tu vois, on verra ça en équipe. Non, mais c'est la bonne réponse, effectivement. On verra ça en équipe. Bah, écoute, je te souhaite le meilleur, en tout cas. Cet été, tu as reçu la visite d'une célébrité nationale, Raphaël Glucksmann.
C'est vrai.
Qui est venu te rendre visite. Est-ce que c'est quelqu'un que, de quoi? Le Cap Clair. Oui, le Cap Clair, le fameux Le Glucksmann. Il n'y en a qu'un, le nôtre, le national. Est-ce que tu le soutiens pour 2027? Pas quoi.
Mais il faut qu'on arrive à avoir un cap clair en 2027. Mais s'il y va, pourquoi pas? Mais la question, c'est comment, dans quelles conditions? Moi, je suis élu local d'une petite commune et je vous explique en fait, comment est-ce que j'essaye de bouger, de faire évoluer les lignes et de dire, à un moment donné, là, droite, gauche, machin, etc. On essaye de faire vivre et de se battre pour un village. Il va falloir qu'on soit capable de proposer ça à l'échelle d'un pays. C'est en train de se construire. Moi, je suis plutôt intéressé par ces initiatives qui sont assez jeunes, en fait, qui sont pas très qui sont pas sclérosés, en fait, comme ce qu'on peut avoir sur des partis traditionnels. Et donc, j'ai envie que ça marche. Et donc, je m'engage pour que ça marche. Et on verra, 2027, il va se passer beaucoup de trucs entre-temps, mais carrément.
Est-ce que les citoyens te parlent du parrainage pour la présidentielle ou est-ce que les gens s'en tapent globalement?
Réponse B.
Ouais, réponse B. Non, mais ça m'étonne pas parce que je me dis, enfin, moi, je fais partie des gens qui sont excités par ce genre de sujet, mais je pense que le commun des mortels normal.
Tu dois être l'un des rares.
Non, mais c'est ça. Je pense que les gens normaux, en fait, ils viennent pas gonfler leur mère avec vous parrainez qui, est-ce que vous allez parrainer machin, il faut parrainer truc et tout. Toi, tu me confirmes que les gens globalement te font pas chier avec ça?
Non, je crois que c'est la première fois que j'ai une question là-dessus d'ailleurs.
Ouais, d'accord. Non, mais ça confirme.
c'est niche. Ouais, effectivement, c'est niche.
J'ai une petite question. En fait, en regardant un peu ton parcours, du coup, on voit que tu es étudiant à Sciences Po. Est-ce que c'est toujours le cas en parallèle de ton mandat? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es une sorte de Anna Montana, en fait. Donc, comment ça se passe auprès de Anna Montana, qui est le jour une jeune étudiante et le soir pop star. Et donc toi, t'es étudiant et mère. Et donc, je sais pas, comment tes camarades te perçoivent? Est-ce qu'ils savent que t'es mère? Est-ce que, et comment, Est-ce que tu t'en parles librement et comment aussi tu arrives à consolider ces deux activités très prenantes? Tu disais tout à l'heure que c'était compliqué financièrement, notamment de boucler les mois, les fins de mois. Donc, parle-nous-en un peu.
Alors, ça se sait, forcément. En fait, la question la question du lien avec les études, elle est un peu difficile parce que j'ai un pied énorme, même peut-être deux pieds dans la vie active, et puis un côté études, et puis en plus, j'ai des trucs qui sont assez liés. Qui font que je me retrouve à avoir de la théorie sur des trucs que je suis déjà en pratique et du coup voilà, j'ai rattaqué il y a pas très longtemps, mais ça crée à la fois une petite distance à l'origine, mais en fait parce qu'on a des vies qui sont très très différentes, mais en fait j'essaye d'apporter assez modestement en disant tiens là ça je l'ai déjà fait chez moi, voilà comment ça peut fonctionner, etc. Et il y a surtout la question du temps et de l'énergie qui est dépensée sur les deux, et ça effectivement c'est un peu d'engagement, ça se fait, mais j'ai signé pour, donc maintenant j'assume et j'y vais.
Moi j'avais aussi une question, on a parlé du très très local, et il y a une question plus internationale dont on a parlé plus récemment pour les mairies avec l'affichage des drapeaux palestiniens sur les mairies. Toi, quel était ton positionnement là-dessus ?
Moi je me sens pas très légitime, maire de Vinzieux, à me positionner sur de l'international. Parce que c'est jamais un sujet en fait qui revient avec les habitants, et que si je peux avoir ma position là-dessus, etc. Ma position de maire, elle implique pas ce que je m'engage à l'international, donc on s'est même pas posé la question du drapeau sur le fronton, etc.
Il nous reste à te remercier d'avoir accepté cette invitation, cher Hugo. Merci. Bon courage à toi pour 2026, quelle que soit la décision de ton équipe et en ce qui te concerne. Et merci d'être venu sur le plateau de Baxit.
Merci pour l'invitation à tout le monde.